Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastination, le podcast où nous allons vous parler aujourd'hui d'un sujet en particulier, d'un mangaka en particulier, du nom de Yuko Ozada. C'est pas forcément le plus connu, mais c'est celui qui fait quand même pas mal de belles choses, de bonnes choses, puisqu'il nous a tapé dans l'œil tous les deux à Tonton et à moi. Bonsoir Tonton. Et c'est aussi l'occasion d'en parler à l'occasion de la sortie du dernier tome de la dernière série sortie en France aux éditions Kiyun qui s'appelle Run the Burst et qui s'est donc terminée sur le 8e tome. Une bonne petite série, ma foi, dont on vous parlera pour finir cette émission. Mais faut savoir que le bonhomme a quand même pas mal vadrouillé. Il est né, donc à titre indicatif, il est né le 7 décembre 1975, donc il a aujourd'hui 37 ans. Et il a derrière lui plus de 15 années de travail, pardon, dans le manga. Depuis 97 jusqu'à aujourd'hui en 2012, donc il y a quand même pas mal de choses dont on va pouvoir parler. Pour apporter un peu à ce podcast un caractère un peu exhaustif, on va parler de ces différentes œuvres d'un point de vue historique, c'est-à-dire qu'on va partir de Magara 97 pour arriver jusqu'à Run the Burst, terminé en donc dont le dernier tome est sorti en France en 2012, et on va voir qu'il a quand même pas mal vadrouillé sur différents magazines de prépublication dans différents types d'histoires, et qu'il a aussi connu énormément d'évolution au point de vue graphique. Alors je te propose Tuntun qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec Magara. Magara sorti en 97. C'est un one shot sorti au Japon chez Kodansha et sorti en France chez Doki Doki. L'histoire en gros est quand même un plagiat plus ou moins énoncé de Akira. En tout cas quand on lit le résumé qu'on peut en faire, c'est clairement vers ce type d'histoire dont s'est inspiré l'auteur, puisqu'on est dans un monde, un monde en, dans un univers.
Je vais pas t'aider, hein.
Moi non plus. Et tu l'as lu pourtant, coquin. Donc tu pourrais peut-être nous en dire deux mots?
oui, Magara, c'est un peu, c'est pas, c'est comme souvent en fait avec l'auteur, c'est un peu un monde
Un peu.
alternatif et presque post-apo.
Voilà, post-apocalyptique.
Ouais, donc là c'est dans une ville recluse sur elle-même. Où les voilà gouvernés par un pouvoir militaire fort et qui fait un peu tous les habitants vivent un peu en esclave puisque c'est des travaux forcés etc. Et voilà donc une jeunesse qui n'a vécu que dans l'enceinte dans les murs entre les murs de la ville. Va finir par se rebeller et vouloir. Là, on retrouve un thème fort de l'auteur, c'est vouloir découvrir le monde, sortir de son trou et voyager et découvrir le monde, quoi. Et donc voilà.
On a affaire ici à la première œuvre qui est éditée d'Ozada. Clairement, c'est graphiquement aujourd'hui, en tout cas, c'est pas très très joli. Il y a un trait, comment dire,
C'est très brouillon en fait.
voilà, c'est pas.
C'est le trait est fébrile. Enfin, ouais, on trouve les prémices du style de Sada enfin, voilà, dans le trait rond, très dynamique avec beaucoup de traits de vitesse, etc. Mais des fois, on a l'impression que les dessins sont pas finis. Ça fait encore assez amateur, quoi.
C'est très hétérogène au niveau du rendu sur toute l'histoire. Il y a des choses en fait qui sont bien rendues au niveau de la structure de l'image, au niveau de la mise en scène.
Il a déjà un cadrage dynamique, très
Exactement.
dynamique, une narration assez vive, quoi.
D'ailleurs, dès le début, parce que ça commence par une course de moto face à un train pour savoir qui est le plus rapide. Et là, on voit tout de suite que l'auteur prend plaisir à dessiner ces pages-là, parce qu'il y a quand même une vraie dynamique qui se propose au lecteur. avec toujours à certains moments des arrêts sur image. Par exemple, à un moment, il va mettre un bâton dans la roue d'une moto pour virer un adversaire, un concurrent. Et du coup, voilà, il s'arrête vraiment. Il y a des fois où il va être vraiment très dynamique, il essaie d'apporter une vraie vitesse à l'image. D'autres fois, il va vraiment s'arrêter sur
Ouais.
une image en particulier.
Faire une pause, voilà, pour mettre l'accent sur une action en particulier. Et ça, c'est quelque chose qui va développer au fur et à mesure et qu'on va énormément voir par la suite, notamment bah, au final dans Run Day Burst, qui rattrape un peu Magara dans prix moto, etc.
Tout à fait. Il y a même autre chose, je trouve, c'est qu'il a. Ces histoires sont toujours empreintes dans un certain milieu urbain. Alors, c'est pas vrai avec tout, c'est pas une généralité non plus, mais c'est notamment le cas avec Magara, c'est notamment le cas avec CSI. On va dire c'est un peu le cas aussi avec Run Day Burst, avec Lost Dawn, pour finir le manga.
Ouais, mais alors là-dessus, je suis pas d'accord avec toi. Et enfin, après, c'est deux. Il y a vraiment deux parties différentes dans son travail. Il y a les one-shots qui sont plutôt urbains, comme bah, CSI ou Magara. Et justement.
CSI pour information, c'est 2 tomes, mais bon,
Ouais.
c'est pas information.
Oui, pardon. One shot, je me perds. Mais oui. Mais après, enfin, pour ces séries plus longues, comme Toto ou Run Day Burst, on détaillera plus après. Je trouve au contraire que c'est très rural. Généralement, enfin, ça part d'un petit village. Puis il découvre le monde, donc c'est il traverse le voilà, il traverse le monde, il voyage, comment dire,
Tenter des
ils sont
découvertes.
sur la route, voilà, ils sont sur la route, c'est presque du road movie quoi, c'est un road trip, et c'est plus, je trouve ça plus campagnard que qu'un Magara ou un CSI.
Au niveau des inspirations, notamment pour Magara, évidemment, on a Katsuhiro Otomo. En ce qui concerne Akira, parce qu'on se retrouve vraiment dans le même contexte d'un monde à la limite de l'implosion. Et on retrouve. Il y a également un autre manga qui est cité à juste titre, pardon, je trouve, c'est Matsumoto Taiyo, qu'on a connu en France, notamment avec Amer Béton, qui est une série qui a été éditée en son temps chez Tonkam, et qui avait été notamment adaptée en film d'animation. Et voilà, il y a notamment, voilà, c'est un style, on sent qu'il y a un style qui est copié, en tout cas, dont on essaie de s'inspirer le. On essaie de s'inspirer l'auteur de Magara, de Yuko Ozada, et que l'on va retrouver de moins en moins. Il va vraiment réussir à trouver son propre style au fur et à mesure de l'avancée de ses œuvres. Alors, je pense qu'on peut passer, on a fait un peu le tour de Magara. Bon, c'est un manga qui reste sympathique à découvrir, mais qui n'est pas non plus un excellent manga
C'est
qui.
comparé à la suite, ça peut facilement se zapper en fait.
Tout à fait. Je pense qu'on peut passer maintenant. Alors là, on était en 97, on peut passer tout de suite à 2002. Donc il y a vraiment eu une période un peu vache maigre, puisque on n'a pas de nouvelles depuis entre 97 et 2002 sur le travail, sur ce qu'a pu créer Ozada en termes de manga. Donc on se retrouve téléporté en 2002 avec Toto's Wonderful Adventure. Une des plus longues séries de l'auteur, puisqu'on est à 5 tomes. La plus longue étant Run Day Burst avec 8 tomes actuellement. Donc c'était pré-publié à l'époque au Weekly Shonen Jump, donc la référence, une des références en tout cas en termes de shonen. Édité au Japon chez Kodansha et édité en France chez Panini Comics.
Ouais.
Alors, ça fait partie des œuvres que je n'ai pas lues, donc je te propose,
Bouh.
Antoine, de nous présenter un peu l'œuvre, un peu Toto que tu as relu récemment, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, bah oui, pour l'occasion du podcast, j'en ai profité pour le relire. Et bah ça m'a fait vachement de bien parce que ça faisait un petit moment que je les avais lus et j'avais oublié à quel point c'était génial. En fait, bah voilà, Toto, c'est en gros, c'est pastiche du magicien d'Oz, l'épouvantail, le lion, etc. Sauf que là, c'est transposé dans un, enfin, avec des personnages réels, et c'est plus l'épouvantail Kakashi en japonais, donc le nom du héros, qui sera donc le protagoniste de l'histoire. Et qui va être rejoint après par Dorothy dans le manga, mais voilà, c'est Kakashi le héros. Et c'est voilà, l'auteur s'inspire du magicien d'Oz, apporte beaucoup d'éléments du conte, la Yellow Brick Road, les sorcières du nord, de l'ouest, Lyon, etc. Enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais tourné à sa manière et avec ses thèmes forts. Donc en fait, on va voir que donc l'histoire, en gros, c'est Kakashi qui vit sur son île, une toute petite île perdue au milieu de l'océan, qui a toujours vécu sur cette île recluse. Et en fait, il tourne en rond, et surtout, son père est un grand explorateur, pardon. Et en fait, il lui raconte tous ses récits de voyage, etc. Et un jour, il apprend que son père est mort et que il lui a légué son carnet de voyage. Donc, lui, forcément, à le lire, à ressasser sans cesse ses aventures, et bah forcément, il a envie de partir, lui aussi. Et un jour, c'est ce qu'il arrive à faire, donc c'est le début du tome 1. Il part en voyage clandestinement sur un dirigeable, et c'est là où commence la merveilleuse aventure de Toto. Donc voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire par la suite. Si, voilà. Alors, il y a 5 ans entre Magara, il passe 5 ans entre Magara et Toto. Je pense que c'était pas anodin. L'auteur a réellement préparé sa série et a mis du temps pour le faire, et ça se voit. Déjà, graphiquement, il y a un bond absolument monstrueux entre les Magara et Toto. Magara était très, voilà, très brouillon, avec un style, déjà, on voyait les prémices du style de l'auteur, mais c'était encore.
C'est
C'était
des ébauches, quoi,
encore
en fait.
voilà, c'était des ébauches. Et là, Toto, bah, il y a une énorme différence. Le trait est nettement plus net. Il y a un vrai style qui apparaît. Dans le cadrage, il est aussi nettement meilleur. Il y a des scènes absolument géniales, et il y a beaucoup d'inspiration aussi. Je pense qu'on y reviendra un peu plus tard aussi, mais. Il y a beaucoup d'inspiration des shonen des années 80 dans la manière de découper ces pages, avec notamment un style où on voit beaucoup les personnages ressortir des cases, être toujours plus grand que, enfin toujours sur certaines cases, avoir la tête qui dépasse de la case, ou des choses comme ça.
Ça participe aussi au côté dont on parlait tout à l'heure, dynamique, et aussi au fait que
Exactement.
l'auteur souhaite aussi sortir un peu des limites de la page du manga, quoi, en faisant en sorte que l'action arrive aussi en dehors du bouquin pour arriver exploser directement sur la page.
Ouais, bah voilà, c'est ça, c'est vraiment, il casse, enfin, il se coupe des limites naturelles du découpage de manga, et il arrive à rendre ça super dynamique, vraiment, au niveau des. Alors, il y avait un gros problème, enfin, il y avait un gros problème, il y avait un problème dans tout ce qui était proportion. Des choses comme ça, et là dans Toto, c'est absolument parfait. Enfin, parfait, ça reste de très très haut niveau, et en plus, ça vieillit très bien. C'est ça l'avantage, parce que je le compare au dessin des années 80, mais ça reste quand même avec un style beaucoup plus beaucoup plus abouti. C'est techniquement des années 2000, mais voilà, avec l'esprit des années 80. Et justement, donc ça se ressent beaucoup dans l'aventure elle-même, qui est bah, juste épique. C'est l'aventure comme on aimait dans les débuts de Dragon Ball ou dans Yaiba, par exemple. On part découvrir le monde avec sa bande de potes.
Ouais, totalement à l'inconnu, sans savoir si c'est sur
Voilà.
quoi on va tomber, quoi.
Voilà. Et donc déjà, à partir de là, on retrouve des éléments. Enfin, voilà, c'est un peu l'œuvre fondatrice de l'auteur. C'est-à-dire que il pose les bases de tout ce qui va revenir régulièrement dans ses mangas, et qui sont en fait les bases d'un shonen, mais exacerbées avec le côté très épique du truc, quoi. Donc voilà, toujours il y a toujours cette notion de partir, de découvrir le monde. Donc le gamin orphelin qui dont lui, son père lui a énormément parlé de tout le monde, tout ce qu'il y a à découvrir, etc. Et lui, il a envie de voir tout ça, et donc bah, il part à l'aventure, un peu à l'arrache, un peu comme il peut, et il va se débrouiller. Et en fait, bah, l'auteur arrive parfaitement à rendre ce sentiment de découverte, etc., quoi.
Très bien, donc à conseiller. Donc le tome, la série, comme on disait, est assez courte puisqu'elle ne dure que
Que
5
cinq tomes,
tomes.
ouais, parce que malheureusement à l'époque elle n'a pas marché, et du coup elle a été arrêtée au bout de 5 tomes. Malheureusement, enfin voilà, ça reste, c'est une fin ouverte. En 5 tomes déjà il s'est passé beaucoup de choses, et en fait il a créé un très bel univers, et qui nous, enfin moi, qui m'a vraiment donné envie de continuer à le suivre là-dedans. Et on sent qu'il avait encore beaucoup beaucoup de choses à raconter. Par la suite, c'est à partir du tome 4, il refait référence, et d'ailleurs ça va être un des éléments récurrents. Il fait encore beaucoup de références à la culture occidentale. Et là, il reprend, à partir du tome 4, il reprend le Mince, il reprend des éléments d'Alice au Pays des Merveilles, avec Chapelier Fou, Alice, les lapins, le lapin, etc. Le temps, enfin, il y a beaucoup de choses, et en fait, bah, il se cultive de ça, mais en le détournant avec ses propres thèmes,
En reprenant à sa sauce, quoi.
en reprenant à sa sauce, voilà, toujours une nation militaire très très puissante qui veut dominer le monde, pour mettre des bâtons dans les roues aux héros, une sorte de pouvoir secret, voilà. Donc c'est du shonen, l'amitié aussi qui est très très mise en valeur. C'est du pur shonen, mais comme je le disais tout à l'heure, très très exacerbé.
Old school dans le fond, mais dans la forme, très très jolie quand même,
Ouais, ah
qui est
oui,
très
c'est
actuelle.
bah, techniquement c'est voilà, c'est des années les années 2000, il n'y a pas de doute, ça vieillit plutôt très bien. Enfin, là, j'ai relu Toto, c'est comme s'il était sorti hier, et là-dessus c'est très bien. Et en fait, bah voilà, ouais, c'est comme on disait, c'est l'esprit des années 80, l'aventure. Pas le shonen baston comme on connaît beaucoup maintenant, mais vraiment le côté épique du shonen, quoi.
D'accord. Alors on va passer vite fait sur un recueil de nouvelles du nom de Tokyo Jumpaku Kekkaku, un tome donc qui a été prépublié à l'époque dans le magazine de prépublication Comic Beam. Alors c'est un peu différent parce qu'on a les deux précédents étaient sur du shonen. Là on passe sur un magazine à tendance seinen. Donc pour vous donner un ordre d'idée, dans ce magazine ont été édités, ont été prépubliés des mangas comme Termae Romae, Desert Punk ou Emma qu'on a notamment vu en France. Donc c'était édité au Japon par Hunter Brain et s'il y a aucune édition française n'a encore vu le jour de ce manga. On va passer maintenant à 2003, puisque finalement 2002 était assez rempli de son côté, avec un manga, deux mangas très intéressants, puisque très représentatifs du style Ozada en formation et qui dispose déjà de solides bases, donc que sont Gear Rally, Gear Rally même, un one shot. Et CSI, que l'on a pu évoquer auparavant, qui lui a tenu sur deux tomes. Alors, Girali, si je dis pas de bêtises, tu l'as lu également, Tonton. On est tous les deux.
Non, non, t'es le
Tu n'as
seul à
pas lu.
l'avoir
Tu sais l'avoir lu, très bien, c'est
lu.
parfait.
Tu vas
Alors,
pouvoir en parler.
absolument. Alors, Girali, c'est aussi un recueil d'histoires courtes. Même si les premiers chapitres se suivent, puisqu'on y suit les aventures d'un policier un peu malchanceux, mais également féru de vitesse, que ce soit à moteur ou à pédale. Il est intéressant parce que dans le style, on est quand même sur quelque chose qui, à la limite, je pense, alors entre Toto et Magara, parce que de Magara, on retrouve encore un trait pas tout à fait sûr. Mais on a quand même une mise en scène qui est de plus en plus, qui est de mieux en mieux travaillée. Et sur la deuxième partie du manga, on sent qu'il y a une vraie différence, un vrai bond en avant même au niveau du dessin, parce que là on sent qu'il est plus sûr de lui, qu'il est davantage sûr de lui. On retrouve aussi, parce qu'en plus il va travailler sur des séries, sur des histoires où il va être totalement dedans, puisque le thème évidemment, ce sont les courses-poursuites. Donc on va voir des choses assez marrantes, entre une espèce de petite camionnette qui roule pas vite, et une voiture de sport dans les virages ultra serrés d'une montagne au Japon. Ça a donné évidemment une mise en scène très chiadée, très 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 bien foutue, avec toujours une impression de vitesse vraiment très très intéressante, puisqu'il va vraiment servir de tout, comment dire, de la mise en scène des différentes cases, des différents points de vue qu'il va souhaiter mettre en avant tout au long des pages. Et c'est vraiment ça fait aussi partie des œuvres que d'Ozada qui vont lui permettre d'atteindre le niveau qu'il a atteint aujourd'hui. Parce que c'est encore très imparfait, ça demande encore du travail pour atteindre le niveau qu'on a aujourd'hui, mais c'est toujours pareil, on sent qu'on est en face d'un auteur qui se construit lui-même. Au début, c'était par rapport aux références qu'il avait de ses lectures. Là, on sent vraiment plus qu'on est sur un aboutissement qui va arriver par le fait qu'il va réussir à aborder son propre style, à avoir son propre style. Et finalement, on apprécie, bon, Gear Rally, on l'apprécie parce qu'il est court et finalement il suffit à lui-même sur 250 pages. Et pour CSI, CSI, tu l'as lu, je crois, non?
Non, toujours
Tu
pas.
l'as toujours pas lu, c'est parfait. Donc 2003 et
J'ai lu la
Yuuzhan
preview,
Vestal.
par contre.
Comment?
J'ai lu la preview.
Très bien.
La première page du premier tome.
Et donc, alors là, justement, on quitte un peu le monde des courses, le monde de la vitesse qu'on a pu voir avec Magara d'un certain point de vue, avec Gear Rally, parce que Gear Rally c'était la thématique numéro 1 du manga, du recueil de nouvelles. Et là on arrive sur CSI, où en fait toute l'histoire va se passer au sein d'une ville, une ville qui vit totalement en autarcie à cause de l'incroyable violence qui y sévit, parce qu'on est vraiment dans une ville en plein chaos. Et donc on se retrouve à suivre une journaliste qui justement veut savoir ce qui se passe, ce qui s'est déroulé, pourquoi cette ville est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Donc on découvrira au fur et à mesure que tout est lié en fait à une drogue qui est produite uniquement dans cette bourgade. Et finalement, l'action va être le maître-clé, pardon, de l'histoire. Le style, bon, le style, on, là, on, le dessin est clair et net, précis. En même temps, voilà, on est aussi face à des personnages qui ne sont pas non plus bordés de détails. Tout est fait de façon très simple. Et finalement, c'est aussi un des mangas où on voit le plus de décors de la part d'Ozada, parce qu'on peut dire qu'autrement, dans ses autres œuvres, la plupart du temps, il est quand même assez avare, de décors, en tout cas de décors fournis. Il va pas s'arrêter à un ou deux détails, là, il va complètement dessiner des rues, des fils électriques, des toitures, etc. Je sais pas ce que tu en penses de ce point de vue-là, du fait qu'Ozada soit pas forcément
C'est
fermé
vrai que
de décors.
jusqu'à maintenant, ces décors, c'était pas très détaillé. On avait souvent des fonds blancs. Alors par contre, quand c'était fait, c'était très bien fait, mais c'était relativement rare. Et alors que dans CSI, le côté urbain lui permet plus aussi de le faire. Et je pense que techniquement aussi, il a évolué sur ce point. Mais c'est vrai que jusque-là, en fait, on avait l'impression aussi qu'il choisissait ses décors, qu'il choisissait ses lieux aussi pour éviter de dessiner certains décors, quoi.
Ouais, par exemple, sur CSI, t'as une architecture qui est quand même un peu folle. Parce que c'est totalement, voilà,
Oui.
c'est l'image de la ville, c'est totalement anarchique. Notamment dans la construction, quand tu vois le bâtiment qui est appelé la mairie, mais finalement, c'est un énorme building fait de patchwork d'étages. Et finalement, voilà, c'est aussi ça qui fonctionne, puisqu'on est dans un univers totalement barré, puisqu'on sait que forcément que ça ne peut pas exister. D'un point de vue architectural, ça ne peut pas tenir debout, en tout cas pas aussi longtemps. Et sinon, au niveau du dessin, donc comme je disais tout à l'heure, il a quand même gagné en visibilité, en lisibilité. Et il utilise aussi un trait, notamment au niveau des personnages, au moment des actions importantes. Il a un trait plus épais qui fait le tour. Donc, pour le contour des personnages, ça peut être juste pour souligner une main qui est en avant. C'est un peu une façon de montrer une sorte d'effet de profondeur, mais finalement très très réussi. Que l'on va voir aussi sur d'autres œuvres du mangaka, notamment Guerre Ali, pour ne citer que lui. Et c'est un effet qui va s'estomper au fur et à mesure des œuvres futures du mangaka, et notamment sur Endeavors, la dernière qui est parue en France, où il va l'utiliser, mais vraiment avec énormément de parcimonie. Que dire de plus sur CSI? C'est une très bonne série, finalement, en deux tomes, mais comme j'ai dit tout à l'heure, qui se suffit à elle-même, c'est-à-dire comme pour Guerre Ali, qui se suffit à elle-même, puisque même si on aurait pu apprécier un développement plus important de la part de l'auteur, il arrive quand même à faire quelque chose, toujours évidemment très dynamique, puisque le côté dynamique du manga est un des éléments primordiaux d'Ozada, tout au long des histoires qu'il va développer. Et finalement, voilà, en deux tomes, il arrive à faire aussi bien un départ accrocheur qu'une fin accrocheuse. Alors que souvent, voilà, on peut imaginer que les mangas, on voit souvent ça d'ailleurs, qu'au fil du temps, il commence à perdre de l'intérêt, à s'élimer pour finir sur une fin soit peu plausible, soit peu intéressante, quoi. Mais pour CSI, je vous conseille clairement la lecture, surtout que voilà, en deux tomes, c'est vite fait. Et c'est un vrai plaisir à lire, une histoire qui change un peu de ce qu'a pu nous proposer l'auteur pour le moment, même s'il y a toujours ce côté aventure. Les courses-poursuites en voiture sont remplacées par des courses-poursuites entre les différents protagonistes de l'histoire, hein. Entre des combats aussi qui sont beaucoup plus présents qu'auparavant. Donc voilà, c'est un manga à lire, et c'est un manga qui participe toujours à l'évolution du mangaka, puisque là, il commence quand même à avoir de la bouteille, à travailler avec différents éditeurs, puisque pour CSI notamment, donc il a travaillé avec Shonen Gaosha, le magazine de publication c'était Young King Horse, donc on est toujours sur du seinen. Entre autres, dans ce magazine-là, ont été édités des mangas connus en France aussi. Notamment Helsing, Trigun, Excel Saga qu'on a plus connu pour sa version animée. Mais voilà, on sent qu'il arrive quand même à gagner en constance tout au long de ses différentes œuvres. Et on va passer maintenant, donc on était en 2003 pour Guerre Ali et CSI, on va passer maintenant à 2006. Avec un des seuls mangas, le seul manga d'ailleurs où il n'est pas scénariste mais uniquement le dessinateur, hein, puisque c'est Hokuto no Ken, la légende de Rao, publié en France notamment chez Azuka, pré-publié au Japon chez Koamix dans le magazine Comic Bunch, dont on a pu lire les œuvres telles que Brave Story, Angel Heart de Tsukasa Ojo. Et Ptoum, qui est sorti très récemment aux éditions Glénat.
Une espèce de repompe de
Battle
Battle
Royale,
Royale.
voilà. Okutonoken, pour être franc, on l'a pas lu.
Non, mais c'est pas l'envie qui manque.
Voilà. Là, on était également sur une série un peu plus longue que ce à quoi elle nous a habitués, c'est-à-dire qu'on était sur une série de 5 tomes. Donc, on
Qui reste
retrouve.
court, hein, malgré tout.
Ça reste court, mais bon, voilà, les Hokuto no Ken, il y a quand même pas mal de mangas développés autour de la franchise. Que ce soit évidemment l'histoire originale, que d'autres
Après,
histoires
oui,
plus
quand
courtes.
y a les grands, enfin certains grands personnages aussi qui ont eu le droit en fait à leur spin-off, dont Rao justement par Osada. Alors, faut savoir quand même que c'est pas Osada Osada et que au dessin en fait, puisque c'est Buranson qui est le scénariste, donc scénariste original de
Hokuto no Ken.
Okutonoken, Ken, pardon.
Ken le survivant français pour ceux qui n'avaient pas deviné.
Voilà. Et donc c'est lui qui. Voilà, pour une fois, c'est pas lui qui scénarise le manga. Et d'ailleurs, je crois que c'est la seule fois que ça arrive.
C'est ça, exactement. Tout à fait. C'est une des spécificités à ce niveau-là, c'est qu'il est vraiment tout seul sur les différentes œuvres qu'il a pu développer. Donc on peut le conseiller si on veut découvrir un peu plus de Zada. Après, c'est vrai que là-dessus, on ne pourra pas forcément vous dire si c'est bien, si c'est décevant ou pas, parce qu'on ne l'a pas lu, donc autant voilà, on va pas
Non, mais
forcément parler
alors,
plus que
par
ça.
contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'au dessin, bah, il assure complètement. Enfin, de tout ce que j'ai vu, c'est du très 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 bon Osada. Et voilà, c'est super classe. On retrouve son style. Alors, par contre, ça va pas forcément plaire aux fans de Hokuto no Ken et surtout de Tetsuo Ohara, l'auteur de la série originelle. Et enfin, c'est voilà, c'est un petit temps d'adaptation, parce que voilà, l'univers d'Hokuto no Ken est quand même très punk, violent, et pas forcément, on ferait pas forcément le rapprochement avec celui d'Osada à la base.
Le style n'est pas forcément adapté entre l'histoire et
Voilà,
le dessin,
mais
quoi.
enfin, au final, moi je trouve que de tout ce que j'ai vu, il s'adapte bien. Mais ça reste très spécial pour les fans de Hokuto no Ken, quoi.
Tout à fait. Donc, Hokuto no Ken, édité en France, notamment chez Azuka. Donc, si vous voulez le retrouver, il me semble qu'il en reste encore, que c'est encore disponible assez facilement. Hop là, on va passer une année plus tard, en 2007, hein, avec une des autres rares œuvres qui n'ont pas de Zada qui n'ont pas encore trouvé le chemin de la France. Je pense notamment à Tribal 12, Tribal 12, manga terminé en 3 tomes, donc pré-publié dans le Shonen Magazine Spécial. Voilà, à titre d'indication, en fait, le Shonen Magazine Spécial, ce sont souvent des séries qui ont commencé dans le Weekly Shonen Magazine, donc l'ouvrage de publication générale de Kodansha, et puis qui soit ne trouvent pas forcément leur public, soit sont concernés par une tranche de public spécifique, et donc sont reversés sur le Shonen Magazine Spécial. Concernant Tribal 12, donc l'histoire, on est vraiment dans un shonen pur et dur, classique, puisqu'on va voir s'affronter évidemment les forces du bien et les forces du mal, avec une façon de combattre qui peut se rapprocher de ce qu'on a pu voir avec Shaman King, puisque là où Shaman King, on avait un combat, on va dire, entre des esprits. pour savoir qui était le meilleur, le plus fort. Ici, en fait, ce sont des capacités spécifiques que n'ont à leur disposition qu'un nombre très limité de personnes, puisqu'ils ont la possibilité, en fait, de matérialiser leurs rêves. Ils peuvent voilà, rêver, penser à quelque chose de particulier qui peut se matérialiser pour les aider dans les différents combats qu'ils vont avoir à effectuer. Pour avoir lu le début de l'histoire, on retrouve voilà, c'est pareil, hein, Ozanam, il a réussi à se faire quand même trouver une certaine marque de fabrique. On peut s'étonner d'ailleurs qu'il n'ait pas pu avoir de pas pu faire de manga plus long que ça. Au niveau du nombre de tomes, mais voilà, il arrive quand même à faire des choses très très jolies, toujours très dépouillées en termes de décor, en termes de graphisme, qui finalement participent amplement parfaitement à son style, puisque cette impression de dynamisme aussi vient aussi du fait qu'on est face à des décors peu détaillés, donc qui permet d'avoir un dessin clair, hein, et appréciable et très lisible pour tout le monde, quoi. Voilà, je pense pas qu'on ait grand-chose de plus à dire pour Tribal 12, même si on espère fortement, au vu du début très intéressant du manga, qu'il soit publié en France rapidement, simplement. Alors alors je propose de passer 2008, hein, pour une raison très simple, puisque 2008 c'est l'année de départ de prépublication de Random Burst, édité chez Square Enix dans le Shonen Gangan, édité en France chez Kiun. On va parler de deux séries, puisque vous l'aurez compris, Random Burst, on va finir en apothéose avec cette histoire. Deux séries qui n'ont pas encore eu la chance d'être éditées en France. Donc l'une, c'est normal, parce qu'elle a commencé à être pré-publiée qu'en 2012, qu'au mois de juin 2012 au Japon. Mais la première, c'est 2012, c'est Jashu. Pareil, édité, donc une série de deux tomes, pré-publiée dans le Weekly Young Jump, donc édité chez Shueisha. Alors là, on se retrouve sur un... Donc d'après le speech initial, évidemment, sur une histoire... Qui va prendre un tournant historique, dans le sens où il va nous raconter l'histoire de six mercenaires durant l'ère Muromachi. Et c'est à peu près tout, tout ce qui a pu ressortir, en tout cas au niveau du manga. On sent en tout cas par rapport à l'histoire, au dessin, qu'on est dans un manga de sabre et de combat. À ce sujet, il y aura une. Bon, on va vous mettre en fait sur le site notamment une vidéo qui a été faite par l'auteur lui-même, à partir de planches, à partir de travaux sur cette série-là. C'est une animation très courte, parce qu'elle dure 11 secondes, mais qui nous permet de découvrir les personnages, les protagonistes de l'histoire. Quelque chose à rajouter dessus, Antoine?
J'ai très envie de le lire.
Ouais, aussi.
Et ouais, bah ouais, c'est donc ça n'est toujours pas édité en France. J'espère que ça le sera un jour. Je sais pas. Je trouve ça assez étonnant que ça soit pas encore, enfin, qu'il n'y ait pas encore eu les droits d'acheter, vu que c'est Shueisha. C'est Osada qui commence à avoir une petite réputation en France, même si on sait que Run the Burst n'a pas forcément très bien marché. Mais là, c'est deux tomes. J'espère que ça sera édité un jour par chez nous. Et en tout cas, bah, ça le mériterait.
Exactement, tout à fait. Donc ouais, on va finir sur 2012, sur Kid Eye Luck, une série annoncée en fanfare au mois de juin notamment, donc qui est prépubliée dans le Young Gangan. Donc c'est un magazine seinen également. Donc on le voit d'ailleurs, il y a une évolution, hein, dans le sens où au début il était plutôt édité par des magazines de prépublication shonen. Il passe également à du seinen. Il revient avec Run the Burst sur du shonen. Il repart avec Kid Eye Luck sur du seinen. À titre d'information, faut savoir que le Young Gangan, il a quand même édité pas mal de créé prépublié pardon pas mal de séries qu'on connaît notamment en France, notamment chez Kiun. Je pense notamment à Kurokami, je pense notamment à Jusqu'à ce que la mort nous sépare, je pense aussi à Front Mission Dog Life and Dog Style. Donc ça sent quand même.
Quel bel accent.
Ouais, t'as vu ça un peu?
Il
C'est
y
pratiqué,
a Hans
c'est.
Pedler aussi, Jackals. En fait, il y a une bonne partie du catalogue Kihun qui est passé par le Yung
Donc on se dit quand on voit ça, qu'on a quand même de grandes chances, en tout cas on croise les doigts pour ça, que ça puisse sortir
Et
un jour
surtout
en
que
France.
j'ai lu une interview récemment sur. D'ailleurs, bah, je mettrai le lien sur l'article. Il y a une Manga News qui a fait une interview il n'y a pas longtemps des deux gérants de Kihun, et où ils disaient que donc Grundy Burst n'avait pas marché, mais que voilà, ils étaient encore très intéressés par la nouvelle série de l'auteur, et que bah, peut-être qu'il tenterait de le publier, ou en tout cas d'aller chercher les droits de Kid Eye-Luck. Donc moi je les y engage pleinement.
Oui, tout à fait. Pour pouvoir continuer à lire en français les nouveaux travaux de Zada. Alors je pense qu'on peut passer maintenant à la partie
Parti fanboy.
fanboy. Oui, fanboy, on va réussir à essayer de garder un côté objectif hein, sur ce
Je
qu'on va
te
vous présenter
connais.
là. Donc on va vous parler évidemment de Run the Burst, série éditée, dont la prépublication a commencé en 2008, série de 8 tomes, donc c'est un peu le manga phare de l'auteur, puisque c'est la série la plus longue qu'il ait pu nous proposer
Le
depuis le début de
début.
sa carrière. À titre de comparaison, One Piece, j'ai bien dit à titre de comparaison, One Piece, si je ne dis pas de bêtises, va en être à son 65e tome. Qui paraîtra début 2013 en France. Donc, c'est pas pour autant, voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée, il n'y a pas forcément de conclusion à tirer de ça, mais ça montre qu'il a. Bon, après, qu'il n'y a pas forcément besoin de faire beaucoup de tomes pour rendre une histoire intéressante et rendre les différents tomes intéressants surtout. Donc, l'histoire, c'est un peu les fous du volant. Remis au goût du jour, hein, puisque la Run the Burst, donc, qui donne son nom au titre du manga, commence quand Trigger et Barrett se retrouvent un peu. Donc ce sont les deux héros de l'histoire se
En
retrouvent.
fait, je peux faire un
Je te
petit
laisse,
résumé?
vas-y.
Ouais. Alors, en fait, c'est surtout donc Barrel, le héros de l'histoire, c'est un enfant. Qui a perdu son père, comme par hasard. Son père qui était mécanicien et qui lui a légué son tracteur sur lequel il avait commencé à faire à monter un moteur d'avion. Et forcément, Barrel a repris le flambeau. C'est un mécanicien de génie et il va retaper entièrement le tracteur pour en faire une vraie bête de course. Et c'est à ce moment-là que Trigger, un coureur un peu barré, poursuivi par des flics parce qu'il vient de braquer une banque, débarque en trombe chez Barrel et l'embarque avec lui pour la Run des Bursts, donc la fameuse course traversant la planète. Devant désigner le meilleur pilote de la planète.
Exactement, évidemment, tous les coups sont permis pour gagner la course, mais finalement, c'est pas le seul enjeu du manga, puisqu'il y a l'armée. Quel est le nom de l'armée déjà? Je ne sais plus.
C'est l'armée de Dice.
L'armée de Dice, exact, qui fomente un horrible projet du nom d'Atlas,
Oui.
et dont on découvrira que le petit mécanicien du début est fortement lié, finalement lié à ce projet-là. On va éviter d'en parler trop parce qu'on va éviter de spoiler surtout.
Lié par son père.
Voilà, lié par son papa, on l'avait dit, sur ce projet-là. Et donc on suivra voilà, tout au long des 8 tomes, l'avancée des héros sur la course, voilà, ils vont juste rencontrer des personnages tous plus farfelus les uns que les autres, que ce soit de l'armée de Dice, Qui me fait d'ailleurs penser par certains côtés à l'armée du ruban rouge de Dragon Ball.
Ouais, bah y a beaucoup de parallèles.
Exactement. Parce qu'on a le côté un peu sérieux, tu vois, les big boss sont un peu sérieux, mais finalement, les sous-fifres, ils le sont beaucoup moins, quoi. Ils sont un peu tous foufous.
Ça, c'est
Mais.
un, c'est un, je vais faire ma première aparté.
Yes.
C'est un des gros points forts de la série et de l'auteur en général, c'est ses personnages secondaires qui sont souvent complètement fous avec tous une vraie histoire, des vraies motivations, et même quand ils sont méchants, on va dire, ils ont une vraie motivation. Des raisons, etc. Et là-dessus, il est très très fort pour construire des personnages secondaires.
Ils sont pas forcément manichéens, quoi. Ils
Ouais,
sont plus
c'est
gris que
exactement
noir
ça. Exactement.
ou blanc. Donc on disait, il y a des références un peu. C'est quand même une série qui est quand même super référencée. Donc
Ouais.
on a fait l'allusion au Fou du volant d'Hanna-Barbera, on a fait l'allusion à l'armée du ruban rouge de Dragon Ball. On peut faire allusion aussi à Lone Wolf and Cub. Hein. Donc voilà, notamment
Wolf's
Wolf.
Rain.
Puisqu'on retrouve en fait un samouraï qui est avec son enfant dans une espèce de poussette. Poussette motorisée, évidemment. Donc il fait forcément référence à
Oui,
ce.
il y
Voilà.
a, y a, y a beaucoup de références. Pareil à Otomo. Enfin, ouais, y a toutes ces influences. Pareil, son influence américaine avec bah, tous les noms, par exemple. Tous les noms déjà sont
C'est en anglais.
en anglais. Et c'est des noms de parties d'armes à feu.
Tout à fait.
Par exemple, Barrel, le héros du manga, donc le je sais pas comment on dit d'ailleurs, le baril,
Oui,
le
c'est le
chargeur,
chargeur, voilà.
et
Trigger, c'est la gâchette.
trigger, la gâchette, cylinder,
Le
il y a
cylindre.
loader, il y a, enfin voilà, il y a plein de noms, c'est en référence à une arme. Il joue un élément d'une arme et il joue énormément là-dessus. Et il fait beaucoup de références par ce biais-là d'ailleurs.
Tout à fait, même les personnages, un peu à la manière de Détective Conan, où les méchants s'appelaient Jean, Vodka. Là, on va retrouver des personnages qui vont s'appeler Uzi, qui vont s'appeler Beretta. Donc, il y a un peu toute cette.
D'ailleurs, quand tu parles de gin, vodka, etc., ça me fait penser à Toto, où pareil, il y a un gang qui s'appelle le gang de Man Chicken, et tous les personnages, tous les membres du gang, en fait, ont un nom d'alcool. Donc pareil, vodka, gin, etc., et il y a 8 membres, je crois, et voilà, ils ont tous un nom d'alcool. Donc, il s'amuse beaucoup là-dessus, sur les noms, en fait.
Est-ce qu'on peut parler de la partie graphique? Merci. Donc il y a plusieurs éléments, très très intéressants dont on peut parler dans Road Deburst et qui montrent un peu l'évolution aussi du mangaka. Déjà, je vous parlais tout à l'heure notamment sur CSI, sur Jiraiya, du trait du surligné noir qui faisait le tour, voilà, qui entourait. Un trait plus épais que les autres, de façon de souligner l'action, les personnages importants de la case. Là, on le voit beaucoup moins, il est quasiment disparu à quelques exceptions près, pardon, et quand il apparaît, ça reste très très limité. Donc ça montre aussi, voilà, qu'il arrive à montrer par d'autres moyens, par attirer l'œil du lecteur par d'autres moyens. Il y a aussi l'utilisation des trames. En fait, il alterne très très bien entre l'utilisation des trames sur ce tome-là et l'utilisation du noir et blanc, notamment sur les derniers tomes où il y a le dernier tome, pardon, il y a des utilisations très très jolies, notamment du noir et blanc qui font référence à des choses comme du côté des comics, je pense notamment à Sin City ou alors du côté du manga Ashman.
Où il joue
qui...
énormément sur le contraste et
Ouais, tout à fait.
sur les noirs. Alors qu'avant, il utilisait beaucoup de trames, par exemple dans Toto ou dans Rao. Il utilisait beaucoup de trames pour certains effets. Et en fait, là, il joue beaucoup plus sur les noirs. Voilà les aplats de noir et le contraste en fait avec ça quoi.
Tout à fait, ouais. Et
Sur la
c'est.
lumière, etc.
Parce que quand on voit par exemple Magara, sa toute première œuvre, c'est vraiment. Il n'y a aucune. Y a quasiment pas de trame, tu vois. C'est
Oui.
que du. C'est que du noir et blanc, où t'as des parties bien sûr grisées, plus sombres, mais qui finalement sont plus d'utilisation, voilà.
C'est très
Du.
basique.
Ouais, exactement, tout à fait. Tout à fait, et on voit vraiment quand tu compares les deux œuvres, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Graphiquement, les techniques qu'ils utilisent maintenant, qu'ils n'utilisaient pas auparavant, et qui rendent le dessin encore
Y
plus
a
agréable.
notamment une page donc pour ceux qui lisent enfin qui ont lu les 8 tomes dans le 8e tome je crois.
Ah bah, en
Alors
fait,
là, je dis peut-être une bêtise, mais je sais que ça arrive à plusieurs endroits. Je sais que dans le 8e tome, il le fait. Il doit y en avoir d'autres à d'autres endroits. Mais où il fait des pages complètes. Ah, c'est ça. Dans le 8e tome, c'est à la fin du chapitre, si je dis pas de bêtises, 37. Et où il fait comme une explosion, un flash. Et là, c'est frappant la maîtrise qu'il a de la lumière et du noir pour le contraste. C'est vraiment très très impressionnant.
On parlait des références tout à l'heure aux comics. On peut quand même faire aussi des références aux super-héros, puisque le super-héros va être le personnage aussi fil rouge de l'histoire avec Wonderful.
Ouais, c'est le leitmotiv du héros avec, comme tu dis, Number Wonderful,
Number
qui est un nom magnifique, avec un costume
Wonderful.
magnifique
Avec un
d'ailleurs,
costume magnifique, ouais. Des poses
qui
magnifiques
est
aussi.
héros d'une série télé, que le Barrel suit régulièrement.
Barrel, mais aussi
Cylinder aussi.
Cylinder, ouais.
Et
Parce que
voilà, c'est
Barrel,
un peu.
pour information, Barrel et Cylinder, bon, vous le découvrez assez vite. En fait, sont amis d'enfance, se connaissent parce qu'ils viennent du même village tous les deux.
Voilà. Cylinder qui est la caution fanservice du manga.
Totalement,
Et
totalement.
c'est assez hallucinant. Il ne sert qu'à ça.
Surtout, c'est très marrant parce que voilà, on la voit souvent seins nus. Et t'as les personnages, les garçons, les personnages masculins, en fait, quand ils la voient, en fait, pour montrer les yeux qui ressortent, en fait, ils représentent des seins à la place des yeux. Et je trouve ce détail juste très très bien trouvé, quoi, juste très 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 bien fait. Et c'est vrai que c'est totalement la caution fanservice.
Mais c'est totalement assumé et
Ah
c'est
oui.
très bien fait et finalement elle a une utilité dans tout ça, c'est pas
Ah oui.
totalement gratuit
C'est pas gratuit, oui, bien sûr.
et du coup bah c'est d'autant plus sympa. Enfin, voilà, c'est toujours agréable un petit peu de fan service. Mais donc pour en revenir à Number Wonderful, donc super-héros d'une série télé. Et qui a comme devise à toutes les personnes qui vient de sauver devient le numéro 1. Et ça va être le leitmotiv de Barrel et de Cylinder. Plus de Barrel forcément qui veut devenir le meilleur mécanicien du monde. Et voilà, ça va être une sorte de fil rouge tout au long de l'aventure.
Qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire? Alors, j'avoue
Elle est trop bien.
que. Comment?
Elle est trop bien.
Elle est trop bien, tout à fait. Alors,
Non.
j'avoue, pour être franc, j'avoue qu'à un moment, j'étais un petit
Ouais.
peu déçu.
Je suis un peu comme toi là-dessus.
Dans le sens où je trouvais que. Il perdait trop de temps, en fait. On va dire quasiment sur les tomes du milieu de l'histoire, on va dire.
Ouais. Il y a un gros coup de mou sur les tomes 5, 6, 4, 5, 6,
Tout à fait.
où il y a un des passages où voilà, l'histoire avance un peu, mais pas trop, et en même temps, l'aventure n'avance pas trop non
Bah,
plus.
ça marche beaucoup en
Ça
fait.
s'attarde un petit peu trop sur d'autres personnages, même s'ils sont très intéressants, ça dévie un peu trop en fait.
Ça marche beaucoup flashback en fait.
Ouais.
Que ce soit contre le rival du maître de Traeger ou contre son rival de la famille qui l'a adopté,
Peacemaker.
Peacemaker, merci. Au début de l'histoire, ça doit être au tome 2 qu'on le voit apparaître.
Oui,
Enfin,
c'est le tome 2 où on a son flashback.
c'est à ce moment-là qu'on se dit que finalement, il était vraiment parti pour faire une histoire plus longue que les 8 tomes qui étaient prévus initialement. Parce que il
Ah,
prend.
ça, je suis pas sûr.
Bah, quand on voit le dernier tome, je pense que, bah, à mon avis, si, dans le sens où le dernier tome, bah, c'est un peu le grand n'importe quoi qui arrive, mais je suis tenté de dire quand même qu'il y avait au moins 2 ou 3 tomes de potentiel en plus par rapport à l'histoire, parce que.
De potentiel certainement, mais je pense que l'auteur avait, enfin Ozada avait prévu ça depuis le début et je pense qu'il l'a entièrement construit sur ces 8 tomes et je trouve que c'est, enfin même s'il y a ce passage à vide un
C'est pas
peu
si évident, ouais.
au milieu, il y a quand même comment dire, c'est quand même relativement bien construit. On a le tome 2 pour le flashback avec Peacemaker. On a
C'est le tome 6.
le tome 6,
C'est
c'est
le flashback
avec
avec.
je ne sais plus comment il s'appelle,
En fait, c'est
mais
le flashback où on découvre comment Traeger
bah voilà,
a découvert
son
la.
passé dans les courses,
Voilà.
etc., son ancien rival. Entre-temps, on apprend pas mal de choses sur bah, l'armée, pourquoi ils poursuivent l'équipe et quelles sont leurs motivations. Enfin, je trouve que c'est relativement bien construit. Il y a certes ce passage à vide qui est surtout dû, je pense, à une. Enfin, il a pas su maîtriser le rythme de son aventure. Il n'a pas su assez varier les flashbacks, les moments d'avancée dans l'histoire et l'action. Ou en tout cas, l'action est peut-être moins intéressante sur le coup. Mais je trouve que enfin ça se ressent qu'en 8 tomes, il a voulu faire son truc en 8 tomes. Il a construit son truc de A à Z en pensant à ça. Et c'est. Tous les personnages sont très bien développés. Les passages avec l'odeur, l'histoire de l'odeur, etc., la sœur, sont très bien. Ça développe juste ce qu'il faut, les personnages, en fait,
Pareil,
je trouve.
Calico, c'est un personnage
Calico, ouais.
finalement. Au début, on pense que ça va être juste un méchant de passage et qu'on va laisser de côté après. Et finalement, elle prend du volume.
Il y a une vraie histoire derrière ça. C'est
Tout à
pareil,
fait.
la mascotte de Run the Burst. On va rien dire dessus, mais voilà, il y a des vraies surprises aussi dedans. Je pense enfin, c'est pas juste un scénario simpliste, un truc un peu gnangnan. Alors c'est très naïf dans le ton, etc. Mais il y a des vraies choses dedans. Il a quand même développé. Une vraie histoire avec un vrai fond, quoi.
Et puis, il faut dire aussi, il y a la vitesse, quoi. C'est-à-dire, il y a les courses, tu sens qu'il s'amuse comme un petit fou à faire ça, quoi.
Ouais.
À dessiner des véhicules les plus improbables possibles, à dessiner des personnages, pareil, les plus improbables possibles. Quand tu vois les personnages qui peuvent gagner la course, tu dis, ah merde, ils sont encore là, tu vois. Euh,
Ouais.
c'est juste, euh, c'est juste énorme, quoi. Tu vois, il va vraiment dans. Il part vraiment dans tous les sens à ce niveau-là, et je parle comme ça d'un point de vue positif, parce que voilà, tu sens, parce qu'on a fait le lien en fait dès le début entre l'amour de la vitesse, en tout cas l'amour de la conduite du mangaka et ce que l'on ressent tout de suite en lisant ces histoires. Et là, franchement, tu sens que voilà, il s'est fait plaisir. D'ailleurs, il finit. On peut quand même vous parler de ça. Je vous conseille de lire la postface de Run the Burst. Parce que finalement, il il finit sur un texte où il montre en fait son amour pour la course, pour la vitesse, et chose qu'on a compris en lisant chose qu'on a compris en lisant les 8 tomes du manga, quoi. C'est un fait. Je pense que c'est un grand malade en plus en conduite et quand tu vois les dessins qu'il fait, c'est juste magnifique.
Oui, d'ailleurs, graphiquement, enfin, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai grand bond. Alors après, on n'a pas lu ses œuvres entre CSI et enfin, entre Rao plutôt et comment dire
Rendez-vous.
et Run the Burst. Donc on ne sait pas trop l'évolution exacte qu'il a eue, mais j'ai trouvé un énorme bond graphique du point de vue des comment dire des détails. Il a énormément de détails sur des grandes pages, des doubles pages. Par exemple, je pense à l'arrivée de Trigger chez Barrel dans le premier chapitre, qui, moi, dès le début, m'a mis sur le cul parce que bah, techniquement, graphiquement, c'est assez impressionnant quand même. Et voilà, il y a déjà de base, il a un très, très, enfin, il a un vrai style. Et un trait très même plus que correct déjà dans
Ah
Toto
oui.
c'était très bon et là enfin clairement c'est monstrueux techniquement c'est assez enfin voilà ça m'a foutu sur le cul quoi.
Il a réussi en plus à créer son style. Il a réussi, comme tu dis, avec ses doubles pages, on va dire, à prendre, comment dire, à se dépasser complètement, parce que c'est pas forcément évident de faire une double page. Et du coup de proposer tous les détails qui peut se permettre de faire. Ce sont des choses qu'il n'osait pas avant, qu'on voit pas beaucoup dans ses précédentes œuvres, et qui là finalement il prend le pari, il fait le pari, et puis il y va, quoi, tu vois. Il a pas peur. Bon, après, il y aura toujours le problème des décors qui sont pas forcément toujours présents. Mais finalement, il arrive à en faire de plus en plus souvent, de plus en plus régulièrement, avec de plus en plus de détails, comme tu le disais,
Ouais,
comme tu
des
soulignais tout de
petits
suite.
éléments, des scènes de crash, des trucs comme ça,
Oui.
où vraiment c'est ça fourmille de détails, les débris, enfin voilà, je compare à ces autres séries. Il y a un énorme bond en avant sur ce genre de choses-là. Et puis même techniquement, enfin le tracteur. Enfin, les véhicules en général dans Run the Burst, c'est juste techniquement hallucinant. Ça me fait penser d'ailleurs à. J'avais fait un article dessus, mais à Toriyama, la précision qu'il a dans les détails mécaniques, c'est assez hallucinant. Et voilà, bah, pour moi, Run the Burst, c'est une référence graphique à l'heure actuelle, enfin, voilà, dans son style. Mais c'est vraiment un truc assez dingue graphiquement. Il y a peu d'auteurs qui sont à son niveau, je trouve.
Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'on a fait le tour. Autour de notamment Run the Burst.
Si je vais ajouter un dernier truc, parce
Dis-moi.
que j'ai relu, voilà, donc Run the Burst, ça s'est fini au mois d'août chez nous. J'ai relu Toto là il y a 2 jours. Et en fait, j'avais jamais fait le parallèle, mais je trouve il y a une vraie concordance entre les deux séries. Enfin, on sent que Run the Burst, c'est ce que Toto aurait dû être dans l'esprit, dans les références, etc. C'est ce que voilà ce que Run the Burst c'est Toto en plus abouti avec 10 ans d'expérience en plus et bah ça se ressent carrément et du coup bah ça me donne encore plus d'affection pour Toto parce que c'est vraiment les prémices de ce qu'Osada est aujourd'hui et j'ai énormément de regrets en pensant à ce que l'auteur aurait pu faire s'il avait continué cette série. Et pourquoi pas la reprendre maintenant, d'ailleurs.
Parce que bon, de toute façon, Toto, la manière de Run the Burst se termine sur une fin assez ouverte, même si bon, Run the Burst, voilà, on
Run
comprend
the Burst,
que.
c'est voulu et
Voilà.
voilà, c'est une vraie fin. Alors que Toto, tu sais que derrière, il y a encore énormément de choses à exploiter.
Mais voilà, je pense qu'on. J'espère qu'on a transmis notre plaisir de lecture, en tout cas, d'un auteur qui finalement. Assez apprécié en France, notamment par les éditeurs, parce que les éditeurs ont sorti chez nous pas mal de ses œuvres, une grande majorité de ses œuvres. Et donc on espère pouvoir profiter un jour d'une adaptation française de Tribal 12, de Kid Eye Luck. Comment?
Yansu, Yansu.
Oui, Yanchu, exact. Dont on va. Dont, Yashu, pardon. Oui, c'est ça.
Yashu, oui, pardon.
C'est pas grave.
Je suis emporté.
C'est ça. Et donc je pense que c'est un auteur à suivre, c'est un auteur qui mérite en tout cas, qui va mériter son succès s'il dit quand il en aura, parce que
Mais
il démontre
déjà pour moi,
qu'il.
c'est assez incompréhensible que Run the Burst n'ait pas marché parce que. Parce qu'il y a, y a tout, enfin pour moi, il y a tout pour que ça marche. C'est beau, c'est plein de fougue, c'est drôle, c'est il y a un très très bon travail d'adaptation de Kihun. Enfin, voilà, comme d'hab, tout ce qui est, enfin, toute l'édition, les couvertures sont superbes,
Les couvertures, en plus,
le
ce
papier,
que j'aime beaucoup dans
enfin.
les couvertures, c'est que finalement, elles sont assez. Elles spoilent, en fait. Tu fais pas attention au début. Et tu te rends compte, en fait, quand tu les regardes après avoir lu le bouquin, tu fais, ah, mais d'accord.
Ouais, bah, et puis elles sont bien construites. Enfin, c'est
Ouais.
Sous forme de pages un peu de BD,
C'est ça.
enfin de manga, et c'est enfin c'est assez atypique
Avec les personnages
comme
en SD,
couverture.
sur le bas de la page.
Ouais, et elles sont superbement mises en couleur d'ailleurs.
Oui.
Elles sont vraiment très très belles et l'édition en général est vraiment belle.
Donc un conseil à tous les lecteurs de manga, en tout cas
Ouais.
ceux qui ont un maximum de goût évidemment.
Déjà, s'ils nous écoutent, c'est qu'ils ont du goût.
Exactement ça. Mais ça c'est même pas la peine de le dire, c'est inné, c'est normal. Plus sérieusement, bah voilà, je pense qu'on apprécierait vraiment de trouver de nouvelles œuvres, en tout cas d'espérer un succès plus important de la part de cet auteur qu'il mérite,
Il mérite vraiment, ouais.
et qui montre vraiment que voilà, en 15 ans de carrière, il a connu une évolution, ne serait-ce qu'au niveau du trait, suffisamment flagrante pour que l'on puisse s'intéresser à lui et aux différents travaux qu'il a effectués. Voilà, donc je pense
Voilà.
qu'on. Autre chose à rajouter, Tonton?
Non, bah, voilà, je peux, pour résumer très rapidement ma pensée sur l'auteur, c'est pour moi un des derniers défenseurs d'un certain esprit du shonen. Le shonen d'aventure, le shonen épique. Voilà, c'est simple, c'est relativement naïf, on va dire. Même si, par exemple, dans Run the Burst, il y a des thèmes qui sont évoqués et qui sont assez forts, et plutôt bien évoqués, mais ça reste du manga pour tous les âges, du plus jeune au plus vieux. Ça se lit très très bien, et puis voilà, c'est un auteur, bah, comme je le disais, c'est une certaine quintessence, c'est la quintessence d'un certain shonen. Qui n'existe quasiment plus ou vraiment trop peu. Et c'est bien aussi de préserver ce côté-là.
Très bien, donc c'est sur ces paroles très sages que l'on va conclure cette première émission à thème. On
La thème Ben
espérera
Arfa?
à thème Ben Arfa, exactement. Sur cette blague pourrie que l'on va vous que l'on va vous quitter, que l'on va
Comment je t'ai
vous.
cassé ton truc?
C'est clair. Que l'on va vous quitter, que l'on va vous dire à la prochaine. Allez, à bientôt.
Salut, à
Salut.
plus.
À plus, salut.